Jusqu'à 19h, on va donner la parole à des témoins de la Seconde Guerre mondiale, témoins de la seconde génération. Renaud Malik, vous êtes à Genève, à leur côté, c'est à vous.
Oui, on va entendre deux témoignages rares dans Forum ce soir. Deux invités avec qui on va parler de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de la transmission de cette mémoire. Tous les opposent, à première vue, ces personnes. Elle est allemande, historienne, fille d'un officier SS actif sur le front de l'Est. Lui est français, diplomate de carrière, fils d'un résistant mort en déportation. Ils sont en Suisse romande cette semaine pour s'exprimer ensemble devant des collégiens et gymnasiens dans le cadre d'un programme qui n'existe qu'en Suisse. Il s'appelle Deuxième Génération. Barbara Brix, Jean-Michel Gosseau, bonsoir, bienvenue dans Forum.
Merci. Bonsoir.
Vous êtes tous les deux de retour de Fribourg. Vous avez donné une conférence ce matin au collège Saint-Michel avec deux autres représentants de la seconde génération. Vous êtes une sorte de quatuor, hein, deux Allemands, deux Français, régulièrement réunis dans le cadre de conférences. Et de manière assez inattendue, vous êtes devenus des amis. Barbara Brix, comment c'est possible une relation, une amitié pareille? C'est presque un pied de nez à l'histoire.
Je préfère que toi, que tu racontes le moment de notre rencontre. Et moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose.
Alors, allez-y, Jean-Michel Gosseau.
Écoutez, j'ai rencontré Barbara Brix, ainsi que le quatrième membre du Quatuor, Ulrich Ganz, lors d'une conférence organisée au mémorial de Neuengamme. Neuengamme, c'était le grand camp nazi de l'Allemagne du Nord. Et il se trouve qu'en 2014, fin avril, début mai, le mémorial a organisé un forum qui s'appelle « L'avenir de la mémoire » et il avait invité ses deux enfants d'officiers nazis, Barbara Brix et Ulrich Ganz, qui se trouvaient là au milieu essentiellement de victimes ou de descendants de victimes du nazisme. Et donc, ils ont parlé tous les deux et je dois dire que ça a été pour moi une très forte émotion. J'ai vu à quel point c'était douloureux pour eux de parler de ce passé, de ce lourd héritage qui pesait sur eux. Et j'ai été très ému et j'ai ressenti beaucoup d'admiration pour cet effort qu'ils ont fait de prendre la parole en public, devant ce public-là en plus. Donc je me suis levé et j'ai exprimé ces sentiments, de cette émotion, cette admiration. Et j'ai fait remarquer que, pas plus que nous, enfants de résistants, nous ne pouvions nous glorifier de ce qu'avaient fait nos pères, eux n'avaient à se sentir coupables des actes de leurs pères. N'est-ce pas ? La culpabilité ne s'hérite pas. Et de même, on n'a pas lieu d'être fier soi-même de ce qui a été fait par un autre, fût-ce son père. Voilà, je me suis contenté de dire ça et de dire que cette douleur que nous ressentions les uns et les autres, même si elle était différente, devait non pas nous éloigner mais nous rapprocher. Et je crois que ça a été assez apprécié, mais Barbara Brix va dire ce qu'elle en pense et donc je crois qu'il vaut mieux qu'elle complète ce que je viens de dire.
Oui, je me rappelle très bien le moment qui m'a beaucoup marqué par la suite. On était donc avec mon compatriote, Ulrich Ganz, donc, et moi sur le podium. Et c'est pour nous deux, c'était la première fois qu'on témoignait en public, disons. Et l'auditoire était composé que de descendants des anciens détenus du camp de Neuengamme. Donc c'était nouveau pour tout le monde. Et quand on avait fini nos témoignages, il se produisit un silence dans la salle et personne ne savait ce qui allait se produire. Et après un ce long silence, je m'attendais à tout. Je me rappelle très bien, j'étais très très nerveuse. Jean-Michel Gosseau s'est levé. Et il a exprimé, donc il a dit les mots qu'il vient de raconter et il a ajouté encore que cette douleur partagée, si l'on peut dire comme ça, pourrait former une espèce de base d'un travail en commun pour la mémoire. Et ma réaction, totalement inattendue pour moi, était un sentiment de libération, je peux dire. Hein. Moi, en tant que j'avais 3 ans et demi à la fin de la guerre, donc je n'étais pas du tout coupable d'une manière ou d'autre, mais là, avec ce sentiment de soulagement, je me suis rendu compte pour la première fois que j'avais quand même une espèce de culpabilité en moi, que m'avait, c'est ce que je crois aujourd'hui, que m'avait transmise l'héritage de mon père, ou disons le fait qu'il n'a jamais vraiment qu'il ne s'est jamais vraiment confronté à son histoire.
Alors on va parler justement de vos parents respectifs, mais peut-être un dernier mot justement sur l'opération Jean-Michel Gosseau. On parle de devoir de mémoire, c'est de ça qu'il est question essentiellement, mais il y a aussi un devoir de pardon. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'on met en scène à travers ces conférences.
Oui, enfin, mais je pense que les victimes, les descendants, les enfants des victimes n'ont pas à pardonner aux parents. En tout cas, on n'a pas pardonné aux enfants. C'est-à-dire que Barbara, je n'ai rien à pardonner à Barbara, n'est-ce pas ? Elle n'est coupable de rien. Et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Même chose pour Ulrich, bien entendu, et pour tous les enfants de nazis. Alors, le pardon, je pardonne, moi, effectivement, à ceux qui ont commis ces actes. Mais le plus important, ce n'est pas de pardonner aux auteurs des crimes ou aux persécuteurs, c'est de travailler sur de nouvelles bases avec leurs enfants aujourd'hui. Et ce qui est remarquable, je pense, c'est que bon, nous nous sommes rencontrés en 2014, nous nous sommes revus les années suivantes, et chaque fois, nos liens se sont renforcés au point qu'aujourd'hui, nous formons un véritable quatuor et nous sommes amis. Et c'est cette amitié qui est le message le plus fort que nous pouvons porter. Je crois.
Alors... Moi, j'aimerais souligner encore, il n'est pas question de pardonner. Hein. Ça, c'est une autre catégorie. C'est vraiment prendre la responsabilité de ce qu'ont fait nos pères. Et ça, c'est autre chose. Jamais je demanderai pardon.
Et raconter aussi, et justement, on va parler de ça, de votre histoire familiale. Vous en avez déjà parlé en quelques mots tout à l'heure, Barbara Briggs, votre père, médecin, décédé en 1980, actif au sein des Einsatzgruppen, ces commandos qui étaient chargés de liquider les opposants au nazisme sur le front de l'Est, essentiellement.
Surtout la population juive, surtout ça.
Essentiellement.
Oui.
Essentiellement, les Digan aussi, ce qu'on appelait les partisans. Mais ça, le rôle qu'il avait tenu à l'époque, ça, c'est quelque chose que vous avez appris un peu par hasard et sur le tard, hein, c'est juste.
Assez tard, c'est vrai. J'étais au moment de prendre ma retraite à 65 ans et plutôt en passant qu'un ami historien m'a demandé si je savais que mon père avait fait partie de la Einsatzgruppe C. Et bon, je n'en savais rien du tout. Je me l'avais imaginé en tant que médecin et selon le narratif dans notre famille qu'il avait été médecin sur le front. Et je me l'imaginais dans son infirmerie et soignant donc les camarades blessés ou opérants. Et bon, c'était totalement nouveau pour moi. Et comme il n'y avait pas très longtemps, j'avais vu une exposition, la première, qui est sortie à ce sujet-là, des Einsatzgruppen dans les années 90, une grande exposition sur les Einsatzgruppen. Jusque-là, ce n'était pas très connu en Allemagne non plus. Et comme je savais plus ou moins ce que c'était, et donc d'autant plus grand était le choc que j'ai senti.
Qu'est-ce que vous avez appris sur lui, sur le rôle qu'il avait tenu à cette époque?
Là, c'était juste l'information et d'abord j'ai hésité, mais finalement je me suis mise à faire des recherches, une longue période de recherche de 12 ans maintenant, et je suis toujours en train de continuer pour trouver, par exemple, il y a des soupçons que son siège était finalement à Kiev, en Ukraine, où il est resté pendant une année entière, et il y a un soupçon. Maintenant, l'année dernière, je suis allée à Kiev. Et il y a le soupçon qu'il a participé à la liquidation des malades mentaux des hôpitaux psychiatriques dans la région de Kiev.
Vous avez dit que vous n'aviez pas été au courant de tout cela avant une période récente. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de tabou familial qui pesait à ce sujet?
Exactement. Je ne savais rien.
Personne n'en parlait. Lui-même, pas
non,
même lui.
Non. Lui, non, pas du tout. Et sur ce que je sais maintenant, après cette longue période de recherche, c'est que, contre ce que je pensais d'abord, j'ai des preuves qu'il a vraiment participé, ou disons qu'il était présent dans des exécutions de masse contre la population juive de Lviv, Lemberg, en Ukraine, et très probablement, presque sûr, aussi dans une autre exécution à Jytomyr, près de Kiev. Et je pense que ce n'était pas les seuls.
Cette curiosité que vous avez aujourd'hui, à la fois en tant que fille d'officier, mais aussi en tant qu'historienne, comment est-ce qu'elle est perçue dans votre entourage, votre famille par exemple? Est-ce qu'ils vous trouvent trop curieuse ou au contraire, ils saluent votre démarche?
Moi-même, je n'utiliserais pas le terme de curiosité, c'était plutôt quand j'avais cette information... Je n'aurais pas pu continuer à vivre avec ce soupçon. Et je voulais absolument savoir la vérité pour après avoir peut-être jugé ou je ne sais pas quoi faire, mais de toute façon, c'est la vérité qui m'importait. Et donc là, il y a des réactions totalement différentes dans mon entourage. La plupart de mes amis ne m'adressent pas la parole, ne me posent pas de questions. Ce sont plutôt des gens de gauche. Et je crois, moi, il y a 15 ans, j'aurais pensé pareil, qu'il ne faut pas donner trop d'attention aux persécuteurs, qu'il ne faut pas leur donner de l'importance. Ce sont les victimes qui, finalement, ont le droit d'être écoutées. Ça, c'était ma position avant. Hein. Mais avec mes recherches et toutes les réflexions que j'ai faites sur mon père, mais aussi sur moi-même, j'ai constaté que ces recherches nous obligent aussi à réfléchir sur soi-même et à se regarder soi-même pour comprendre ou analyser les motivations des gens. Et ça, c'est autre chose quand on parle de Hitler ou de Himmler ou quand on parle de son propre père. Parce que automatiquement, tu te demandes, mais toi, quelle a été ta position? Pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas posé de questions à ton père? Et tu as fait partie du silence et tout ça. Hein.
Et justement, quel est le sentiment qui prédomine aujourd'hui?
Ça, c'est un mélange et ça change quand même. Hein. Quelquefois, j'ai même honte de faire des recherches parce que il y a aussi ce sentiment d'accuser, je ne l'accuse pas, mais de parler ouvertement d'un homme qui n'est plus capable, qui n'est plus dans la situation de se défendre. Et c'est pas très, comment dirais-je, c'est pas très, très honnête, je dirais. Hein. C'est des sentiments que j'ai aussi, bien sûr.
Alors, Jean-Michel Gosseau, vous, votre histoire personnelle est évidemment très différente. Hein. Votre père, à vous, était un résistant, mort en déportation, on l'a dit tout à l'heure. Vous ne l'avez pas véritablement connu, mais là, son histoire, vous la connaissez. Et justement, enfin voilà,
je ne l'ai pas
qui
connu
était
du
votre,
tout.
Votre père?
Je ne l'ai pas connu du tout, puisque quand il a été arrêté en mars 1944... Je n'étais pas né, j'étais encore dans le ventre de ma mère, et depuis peu. Et je suis né 8 mois après son arrestation. Et quand il est mort, je ne l'avais jamais vu, et j'avais 6 mois. Bon, donc je n'ai pas connu cet homme, mais évidemment, on m'en a beaucoup parlé, que ce soit mes grands-parents paternels, dont c'était le seul enfant, ou ma mère. Donc, pour moi, c'était un héros. On m'a toujours parlé de lui, bien sûr, dans des termes extrêmement élogieux. Et c'est devenu, pour moi, enfant, une sorte de dieu. C'était pratiquement une religion. Je m'adressais mentalement à mon père pour le prier, pour lui demander de me protéger à l'âge de 6 ou 7 ans. N'est-ce pas? Et toute ma vie, il est resté très présent en moi. C'est une image qui ne m'a jamais quitté. Donc, c'est un homme qui était-il? Je peux pas le dire très précisément puisque je ne l'ai jamais rencontré, mais c'était un homme brillant, paraît-il, qui aurait passé le diplôme d'avocat à l'âge de 20 ans, qui a été ensuite juriste, qui s'est courageusement engagé, qui a pris beaucoup de risques et qui a payé ça de sa vie, et qui est mort à l'âge de 30 ans, mort de faim littéralement, dans un camp annexe de Neuengamme.
Alors, être le fils d'un héros, ça procure une certaine fierté, mais on imagine que, là encore, comme pour Barbara Brix, c'est un mélange de sentiments. Oui. Voilà, il y a une certaine mélancolie, ne serait-ce que dans le titre du livre que vous avez publié, un c'est ode vrai. À un absent qui ne m'a jamais quitté. Il y a quelque chose de lourd aussi à porter.
Ode au grand absent qui ne m'a jamais quitté. Effectivement, c'est à la fois une sorte Bon, un motif de fierté, vous l'avez dit. Ça me donnait parfois un sentiment de protection, mais en même temps, c'était un poids très lourd à porter. Et il y avait toujours ce sentiment que je ne serais jamais du niveau de mon père. Très souvent, au cours de ma vie, je me suis demandé, est-ce que mon père aurait fait ceci comme moi ou pas? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Et c'était pour moi une sorte de modèle, mais un modèle par définition impossible à atteindre parce que, à mes yeux, il était parfait, ce qui évidemment n'était pas la vérité. Mais enfin, c'est ainsi que je l'ai vu pendant très longtemps, comme un être presque divin, contre toute logique, bien sûr. Mais avec mon imagination d'enfant, ça s'est passé comme ça et ça a duré très longtemps. Et le fait d'écrire ce livre, ça m'a libéré d'un poids, effectivement.
Et pourquoi cette envie de témoigner aujourd'hui avec d'autres acteurs, d'autres représentants de la seconde génération? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à la jeune génération?
Eh bien, écoutez, je crois que nous avons envie, pas seulement moi, mais également Barbara, Ulrich, Yvonne, enfin nous quatre, d'abord de transmettre le message que entre personnes dont les passés familiaux sont antinomiques, il est possible de s'entendre et même d'avoir une véritable amitié. Et le message essentiel, c'est la tolérance, c'est le refus de la haine, et c'est d'être toujours en alerte devant les dangers qui nous menacent aujourd'hui. Parce que je pense que nous vivons une période extrêmement préoccupante. Beaucoup de gens font un parallèle entre la période actuelle et les années 30. Et c'est vrai que malheureusement, il y a des points communs. Il y a ce que le président de la CICAD appelle le national-populisme qui monte un peu partout dans nos pays et qui représente une véritable menace parce qu'on voit beaucoup de réactions de rejet à l'égard de certaines catégories de la population, une recrudescence de l'antisémitisme qui est extrêmement préoccupante. En France, en tout cas, c'est le cas, mais pas seulement en France. Et donc, je crois que c'est contre cela que nous devons travailler ensemble pour expliquer aux jeunes à quel point il est important de respecter la personne humaine partout, quelles que soient ses origines, ses convictions, chacun a droit au respect.
Barbara Brix, les derniers témoins directs de la Seconde Guerre mondiale ne seront bientôt plus là. De ce point de vue-là, les membres, les représentants de la seconde génération, ils ont vraiment une responsabilité à part entière, notamment dans le contexte qu'on vit aujourd'hui.
Oui, ça c'est sûr. Je voudrais quand même expliquer un peu le processus parce que au début de mes recherches, j'étais décidée de garder tout ça pour moi et mon frère, ma sœur, mon fils. Et c'est seulement après une longue période de recherche et dans le cadre d'une conférence qui s'est faite à Neuengamme, dans le mémorial de Neuengamme, où j'ai tout d'un coup compris que mes recherches avaient aussi un côté politique, que je devais même parler publiquement pour transmettre un message, mais pour expliquer à l'auditoire ou discuter avec eux sur les motivations, sur les raisons, comment ça a été possible qu'un homme pas du tout extraordinaire, un homme normal comme mon père, a pu tomber dans les pièges d'un démagogue inhumain. Et pendant cette longue période de recherche, j'ai commencé à me poser des questions à moi aussi et à réfléchir sur ma propre attitude. Et de plus en plus, j'ai découvert que moi aussi, que j'avais eu un rôle dedans, une responsabilité aussi, et qu'il ne suffit pas, c'est ce que je dirais aussi à la CICAD, que finalement aussi notre secteur pédagogique à Neuengamme, il ne suffit pas de conduire les jeunes à travers un mémorial en leur expliquant l'histoire. Il faut en même temps les aider à réfléchir sur eux-mêmes et de devoir constater que, de toute façon, moi je l'ai fait avec une certaine honte même, de voir que nous, où chaque être humain a les possibilités du mal en soi-même. Et que tout le temps, on doit être alarmé ou être dans un état d'alerte aussi en se regardant, en nous regardant nous-mêmes et constater que on a toujours une tendance de se sentir meilleur que l'autre et de perdre j'aimerais bien souligner ce que tu as dit, Jean-Michel, le respect de l'autre est pour moi au cœur du problème.
Et en même temps, ce parallèle qu'on fait constamment entre notre époque et les années 30, est-ce qu'il vous paraît vraiment à propos? Vous savez ce qu'on dit, hein, souvent l'histoire ne repasse pas les plats.
C'est peut-être pas exactement pareil, mais aussi je suis très inquiète par les mouvements actuels, même aussi en Allemagne, l'antisémitisme croissant, mais aussi l'agressivité qu'il y a chez nous contre les étrangers qui arrivent, les réfugiés. Je trouve tout ça très inquiétant.
Barbara Briggs, Jean-Michel Gosseau, vous restez avec nous. À vos côtés, il y a le secrétaire général de la CICAD, la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. Yann Gourfinkel, bonsoir.
Bonsoir.
C'est donc vous qui êtes à l'origine de ce programme, cette plateforme de dialogue qui s'intitule donc Deuxième Génération. Comment est-ce que vous les avez recrutés, ces témoins?
Je ne sais pas si le terme de recrutement
peut-être
est parfaitement
pas,
adéquat,
pas
mais
tout à fait approprié.
Je dois avouer qu'on a on a imaginé et conçu ce projet à l'origine dans l'idée qui est développée ce soir par Jean-Michel et Barbara, c'est-à-dire de réfléchir comment est-ce qu'on pouvait continuer à transmettre ce message qui était fondamental. On fait beaucoup de liens avec l'actualité. On parle peut-être moins d'une réalité qui est objective, sans faire de lien avec les années 30, c'est de dire qu'il y a un développement croissant des idées conspirationnistes et complotistes. Hein. On imagine qu'il y a des complots partout, de la conspiration au quotidien, ça génère évidemment de la discrimination, du rejet, bien au-delà même, je veux dire, de l'irrespect. Il y a aujourd'hui des tendances, en tout cas discriminatoires, antisémites et racistes qui sont en croissance. Donc il fallait de toute façon garder à l'esprit que face à ce drame absolu qui a été la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale, il fallait continuer à poursuivre ce travail de mémoire qui est fondamental. Il est fondamental parce qu'il interpelle, il est fondamental parce qu'il doit éveiller les consciences. Et par rapport à ça, on a fait donc tout ce travail de recherche pour pouvoir aussi confronter des historiques personnels et familiaux qui étaient, comme le disait Jean-Michel, parfois antinomiques, mais qui pouvaient faire résonner. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à faire dialoguer aujourd'hui des gens qui sont les témoins de deuxième génération, porteurs de cette mémoire familiale, et qui soient à la fois dans les familles de déportés, les familles de résistants, et aussi les familles de ceux qui ont été les persécuteurs et les criminels. Parce que là, il y avait une opportunité, une ouverture, de pouvoir aussi les entendre, parce que leur témoignage était tout aussi fort.
C'est des échanges rares. Johann Gourfinkel, vous me disiez même tout à l'heure, ça n'existe, ce genre de programme à destination des collégiens, gymnasiens, ça n'existe nulle part ailleurs qu'en Suisse romande.
Exactement. C'est un programme. Il y a des opérations, il y a eu des événements dans lesquels ce quatuor a pu témoigner, mais jamais dans le cadre d'un concept plus global qui visait à travailler sur cette idée de transmission. Moi, je parle jamais de devoir de mémoire, je parle de travail de mémoire parce que je sais que c'est un travail qui est nécessaire aujourd'hui pour récolter les fruits aujourd'hui de cet engagement. Donc ce travail-là, tel qu'on l'a conçu comme une vraie étape démarche éducative et pédagogique, n'existait pas. Et je suis ravi que, encore ce matin, nous étions à Fribourg, que le président du Conseil d'État, que le syndic de Fribourg se soit associé très rapidement à ce projet, parce qu'ils étaient conscients qu'effectivement, il y avait une portée beaucoup plus large. On était au Collège Saint-Michel, et on voit à quel point à la fois les enseignants, que ce soit même les recteurs fribourgeois, et puis les élèves, ont réagi avec beaucoup d'enthousiasme en entendant ces paroles, qui sont finalement pleines d'espoir, quelque part.
Il nous reste à peine 2 minutes, Barbara Briggs, Jean-Michel Gosseau, donc il va nous falloir être un peu bref, mais voilà, j'ai envie de vous poser la question, Barbara Briggs, est-ce que ce serait possible en Allemagne, ce genre de rencontre, de dialogue?
Oui, dans ce cas-là, j'aimerais bien ajouter encore quelque chose. Le programme existe bien sûr à Neuengamme même. C'est finalement le lieu, le mémorial de Neuengamme, qui nous a réunis et qui a inventé un programme qui s'appelle Forum Avenir de la Mémoire et qui se refait tous les ans au moment des cérémonies commémoratives de la libération de l'ancien camp de concentration de Neuengamme. Et là, dans ce forum, se réunissent chaque année de nouveau les descendants des victimes, les descendants des persécuteurs. Et on a même un blog à l'internet dites, où il y a des échanges par écrit, bien sûr, de différents pays d'où venaient donc les anciens détenus.
Et en France, Jean-Michel Gossot, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça pourrait se faire? Est-ce qu'il y a peut-être un soupçon de réticence à l'idée de réunir autour d'une même table?
Je pense que ça pourrait se faire. D'ailleurs, nous l'avons fait, mais ponctuellement. Une fois, nous sommes allés à Perpignan. C'était en mars 2017, si je ne me trompe. N'est-ce pas? Le même quatuor. C'était la première fois que nous avons témoigné ensemble dans un collège et dans un lycée de Perpignan.
Et
je crois que c'était très utile. Et nous allons aller effectivement à la prison de Montluc à Lyon au mois d'avril cette année. Donc il y a des initiatives, mais il n'y a pas un programme organisé, structuré comme celui de la CICAD. Et je dois dire que je trouve tout à fait remarquable le travail de la CICAD.
Voilà, ce programme de dialogue qui s'intitule donc Deuxième Génération. Un grand merci à vous, Barbara Briggs, Jean-Michel Gossot, pour vos témoignages. On rappelle que vous êtes en Suisse romande cette semaine pour une série de conférences. Vous serez à Lausanne ce jeudi au gymnase du Bunion, puis à la librairie Payot. Merci également à vous, Johann Gurfinkel, coordinateur de la CICAD, initiateur de ce programme. Excellente soirée à vous trois.